faisant de l'envin, peut-être pour montrer que, après tout, la chose la plus formidable qui puisse jamais découler de son ministère, c'est que Jésus-Christ change même la nature de manière à créer quelque chose qui apporte la joie de Dieu dans le monde. Mais avant cet incident, c'était Marie, c'était sa mère. Vous savez, c'était seulement peut-être, voyons, 40 jours, plus peut-être encore une semaine, ou 10 jours, 50 jours, à peu près 7 semaines avant, à peine 2 mois avant, Jésus était encore charpentier à Nazareth, où il était le gagne-pain pour sa mère et ses frères. On ne parlait plus de Joseph, je pense qu'il était mort bien avant ça. Et puis il a quitté sa charpenterie pour aller écouter Jean-Baptiste, se faire baptiser, passer ses 40 jours dans le désert. Ensuite il est revenu rempli du Saint-Esprit, il est allé dans la synagogue, et on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le petit gosse, Jésus, il se prend pour qui? Et les gens n'ont pas cru en lui. Et un an ou deux après, quand il est revenu à Nazareth, ils ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de le jeter par une falaise. Alors, le Seigneur Jésus, donc, ce jour en Galilée, à Cana, aux noces de Cana, il est là avec ses disciples. Je ne sais pas s'il se régalait ou s'il soufflait un petit peu de l'ambiance, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des gens qui se saoulaient, j'en sais rien. Mais il était là, par courtoisie, et subitement, sa maman vient lui dire, écoute Jésus, ils n'ont plus de vin. Ça, c'était quand même remarquable, parce que je me demande pourquoi elle s'est adressée à lui, parce que lui n'avait pas de fric pour acheter du vin pour toute une foule d'invités comme ça. Mais je crois qu'intérieurement, évidemment, elle avait la foi. Sans cela, elle n'aurait jamais pu enfanter le Messie. Elle avait quand même la foi. Et je crois qu'elle avait toujours compté un peu sur son fils aîné. Et bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus a tout simplement changé du jus en vin. Mais lorsque Marie lui a posé cette question, il a dit, ils n'ont plus de vin, il a dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Et cette expression est terriblement forte. On la retrouve plusieurs fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et chaque fois, presque sans exception, il s'agit de démons et de l'Esprit de Dieu. Par exemple, les démons, dans les évangiles, si vous les attendez, on dit à plusieurs fois à Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire, on n'a rien de commun. Alors même aux noces de Cana, parce que Marie n'avait pas encore compris son ministère, elle ne s'était pas associée à ses disciples, il a dit, écoute, on n'a rien de commun. C'est vrai, c'est toi qui m'as élevé, c'est toi qui m'as mis au monde. Mais actuellement, je suis appelé à faire la volonté de mon Père. Tant que tu ne comprends pas ça, on n'a rien de commun. C'était un peu terrible, n'est-ce pas? Et quand on pense que le Seigneur Jésus ne reconnaît pas l'autorité de sa mère sur sa personne, du fait qu'elle n'acceptait pas entièrement la volonté de Dieu, bien c'est étonnant. Et puis maintenant, 2 ans après, Jésus dit, mais qui est ma mère? Moi je crois qu'il a dit peut-être les larmes aux yeux, il souffrait. Oh, si seulement ma maman comprenait vraiment, 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 quel est mon ministère, et que je suis venu pour mourir pour les péchés du monde. Elle n'a pas compris ça. Mais le jour où Marie a vu son fils crucifié, elle était l'une des seules personnes amies de Jésus, en connaissance de Jésus, qui a eu le courage d'être amie de Jésus. C'est cassé ou non? Eh bien, ce jour, elle a compris. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, parmi les 120 qui étaient là, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, elle était là. Et 10 jours avant, elle s'est associée aux disciples, elle a prié avec les disciples jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Pendant ces 10 jours de prière, après l'ascension de Jésus jusqu'au jour de la Pentecôte. Elle a compris. Mais quelle épreuve terrible pour le Seigneur Jésus, ce jour-là, d'avoir à insister sur ce gouffre qui le séparait de sa mère. Et pourtant, il n'a pas baissé le standard. S'il y avait une chose que le diable aurait pu utiliser pour le faire dévier de son objectif, c'était cela. Je ne veux pas dire que Marie était un ennemi De Dieu, non, mais elle était croyante sous l'ancienne alliance, mais elle n'avait pas compris la nouvelle alliance. Elle n'avait pas compris le ministère de son fils à ce moment-là. Alors Jésus, après cette épreuve, dans le chapitre 13 de Matthieu, il sort et il s'assied au bord de la mer. Il y avait tellement de gens qu'il s'est mis dans une petite barque et il a commencé à enseigner. Et comme je l'ai dit hier, il a changé complètement son enseignement à partir de ce jour. Avant, oui, le royaume de Dieu est proche. Croyez, Israël peut se convertir, Israël peut voir la gloire de Dieu, Israël peut être en bénédiction à toutes les nations. Toutes les nations peuvent entendre la vérité, tout le monde peut voir la splendeur de Dieu sur la terre. Maintenant, non. Il préparait ses disciples intimement pour cette nouvelle phase, cette nouvelle conception du royaume de Dieu, le royaume de Dieu en mystère, en cachette, en secret, le royaume de Dieu parmi nous, mais pas visible, non pas un royaume avec un trône, avec la police, avec des frontières, non, un royaume intérieur et spirituel. Et Jésus commence à enseigner, et puis la foule est là, la foule écoute, toujours, jusqu'à la dernière semaine de sa vie, la foule était suspendue aux lèvres de Jésus, mais ils écoutaient, c'est comme une belle chanson dont on ne comprenait pas les paroles. Et Jésus n'expliquait pas, mais à ses disciples d'expliquer. Alors regardons cette première parabole. Dans ce chapitre, il y a 7 paraboles. Et le Seigneur Jésus enseigne en somme une seule vérité dans ce chapitre. La différence entre la vraie Église et la fausse Église. La différence entre le royaume de Dieu proprement dit et tout ce que le diable y ajoute et qui fait un mélange. Alors la première parabole, c'est celle qu'on appelle du semeur. Moi je préfère l'appeler la parabole de la semence. Jésus dit, verset 4, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie est tombée dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre si on n'a pas d'oreilles. Et les inconvertis n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont pas de faculté spirituelle qui leur permettent d'entendre. Mais les disciples avaient des oreilles. Et verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères, ou les secrets, le mot veut dire secret en grec, du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors Jésus cite le prophète Ésaïe qui prophétisait à un moment où Israël était vraiment dans l'endurcissement. C'était pendant la vie d'Ésaïe que l'Empire assyrien est venu attaquer Israël et a emporté 10 tribus du peuple d'Israël en captivité et qui ne sont jamais revenus dans leur pays jusqu'à maintenant. Lorsque j'étais en Iran et au nord de l'Irak pendant la guerre, j'ai rencontré des juifs là, qui étaient descendus de ces tribus, qui étaient restés là depuis 700 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, les Iraniens et les Irakiens les ont tous expulsés, ils ont été obligés de revenir en Palestine, en Israël. Eh bien, Jésus dit, voilà pourquoi je leur parle en parabole. C'est que ce n'est pas la peine de leur parler clairement. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ont endurci leur cœur. Pourquoi veux-tu que je leur explique encore? Ça fait 1 an ou 2 ans que je leur prêche la vérité. Clairement, mes parents n'ont pas été ambigus, j'ai tout dit noir sur blanc, et ils ne veulent pas écouter. Et ils disent que tout ça vient du diable. Bon, alors maintenant, je vais continuer à leur parler. Comme ça, s'ils veulent encore comprendre, ils peuvent comprendre. Ceux qui veulent comprendre, ils le peuvent. Mais pour la masse, pour la majorité, non. C'est pas la peine. Vous savez, le Saint-Esprit se met à la portée de tous les êtres humains pour les amener à la lumière. Mais si finalement, un homme dit « je ne veux pas », quand il le dit en pleine connaissance de cause et délibérément, le Saint-Esprit dit « bon, alors, je respecte ta décision, tu n'es pas une bête, tu n'es pas une machine, tu as choisi, je te laisse tranquille. » Et le Saint-Esprit le laisse tranquille. Et cet homme ne se repent plus jamais, puisqu'il ne peut se repentir que si l'Esprit de Dieu agit sur lui. Alors ceux qui rejettent délibérément l'Esprit de Christ, eh bien, ils sont voués à l'enfer, de leur propre choix. Dieu respecte leurs décisions. Et pourtant, Jésus n'a pas balayé en enfer tous ces pharisiens, ces scribes, ces sadducéens qui l'ont rejeté ce jour-là. Pendant encore un an et demi, il a continué à leur parler, à leur offrir en quelque sorte le salut, mais sous forme de parabole. Jésus n'a pas fermé de son côté la porte. Mais nous verrons, si nous avons le temps à la fin de nos études, nous verrons comment la dernière semaine de sa vie, le Seigneur Jésus est monté à Jérusalem pour forcer une décision publique. Il a affronté le Sanhédrin et il les a obligés de faire le choix, ou bien de se mettre face contre terre devant lui et dire « nous avons péché et nous sommes coupables, tu es le Fils de Dieu », ou bien de le liquider. C'est extraordinaire comme ce jeune charpentier de Nazareth, il a su finalement, j'allais dire manipuler, mais ce n'est pas le mot, il a su manier toutes ses puissances et ses autorités de manière à se faire tuer exactement comme il l'entendait et mener leur décision à bout. C'est-à-dire, un an et demi, ils avaient déjà choisi. Jésus a laissé la porte ouverte pendant encore un an et demi. Et finalement, il force la décision. Et il y a énormément de gens qui entendent l'Évangile, qui savent que Jésus-Christ est la vérité, qui connaissent le chemin du salut et qui finalement rejettent le Saint-Esprit. Eh bien, Dieu ne ferme pas forcément de son côté la porte, mais il dit simplement que tu as choisi, bon, alors je te laisse tranquille. Mais le jour arrive où Dieu force la décision. Et cette décision, c'est peut-être sur le lit de mort, où on sait, on voit déjà l'enfer, et on ne peut pas reculer. Combien de personnes sont mortes d'une mort absolument terrible. Aujourd'hui, ça ne se voit pas tellement parce que dans les hôpitaux, on drogue les gens, on leur donne de la morphine, autre chose, elles meurent inconscientes. Elles meurent inconscientes. Mais jusqu'à ce qu'on adopte toutes ces méthodes pour calmer les mourants, vous savez, quand on assistait au lit de mort, c'était quelquefois quelque chose d'absolument effrayant. Le Voltaire, n'est-ce pas ? Voltaire, évidemment, il a fait beaucoup de bien aussi au cours de sa vie, mais quand même, il s'est moqué de Dieu et de Jésus-Christ. L'infirmière qui l'a soigné au moment de sa mort a dit que plus jamais il ne soignerait un athée. Il implorait Dieu de nous sauver. Il faisait appel au sang liquide et puis il blasphémait après. Il est mort comme ça. C'est terrible. Et j'ai connu d'autres cas de personnes qui sont mortes comme ça. Je connais aussi des gens qui sont possédés et qui, dans la prière, et puis après ils blasphèment. Terrible. Mais lorsqu'on ferme définitivement la porte à Dieu, finalement, on trouve que la porte est fermée. Mais c'est nous qui l'avons fermée. Et Christ, de son côté, n'a pas fermé. Il accepte simplement cette fermeture comme la décision de ceux qui le rejettent. Alors, ensuite, verset 16, il dit « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Alors Jésus nous donne une explication de cette parabole. Mais gardez le doigt dans ce passage et regardez encore l'évangile de Marc, dans le passage parallèle, où il y a une phrase intéressante, dans Marc 4. Et au verset 13, Jésus dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? C'est-à-dire, si on ne comprend pas le sens de cette première parabole, on ne saura pas trouver la signification des autres. Et il faut remarquer que le Seigneur Jésus emploie un symbolisme très clair et très systématique. Dans ses paraboles. Vous savez, un symbole, c'est une image. Alors, Jésus parle en image. Verset 18, Et 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Moi, j'appelle ça le cœur dur. Vous savez, entre le chemin et le champ, il y a toujours une marge où il y a des gens qui marchent dessus et qui empiétinent sur le champ, et le résultat, c'est que la terre est dure. Et lorsque le semeur jette la semence, elle ne pénètre pas, elle reste à la surface. Et le résultat, c'est que les oiseaux peuvent très facilement et instantanément manger cette semence et il ne reste plus rien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent bien être dans le royaume de Dieu, mais qui veulent aussi être dans le monde. Ils veulent être dans les deux à la fois. Ils sont entre les deux. Ils ne sont ni dans le champ, ni sur le chemin. Et les pieds de tous les passants foulent par terre ce cœur, cette âme, et l'endurcit. D'ailleurs, tous les démons qui passent peuvent... Et tous les gens qui passent, et tous les moqueurs, et tous les amis, et tous, peuvent endurcir ce cœur. Alors, dès que cette personne entend l'évangile, oui, elle reçoit la parole, quand même la terre reçoit la parole, oui, la semence tombe dessus, et quelquefois les gens même sont assez contents. Mais parce que le cœur n'est pas ouvert, parce que la terre n'est pas ouverte, elle n'est pas labourée, la semence ne pénètre pas, et le diable l'enlève. C'est le cas de peut-être la grande multitude dans ce monde. Deuxième cas, c'est ce que j'appelle le cœur superficiel, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. Oui, un champ où il y a beaucoup de bonne terre, mais c'est très peu profond, peut-être 1 cm, 2 cm, et puis en dessous, des cailloux et du rocher. Alors la semence tombe, il y a quelques gouttes de pluie, ça pousse très rapidement, on voit vite la tige, et on croit que la personne est convertie. Formidable, et puis la personne est remplie de joie, oh, mais c'est merveilleux, et cette personne connaît une véritable action de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Il se passe quelque chose. Et nous autres, en voyant ça, on se dit que, ah oui, il est vraiment converti, il est né de nouveau. Et quelquefois, on se leurre. Parce que cette personne, oui, a reçu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à faire un travail dans son cœur, mais cette personne ne veut pas lui donner le fond de son âme. Il lui donne la superficie, surtout. Et l'Esprit de Dieu commence à faire son travail, il fait ce qu'il peut, mais il se trouve finalement complètement bloqué par une masse de rochers. Et la semence ne peut pas pénétrer. Alors la toute petite tige qui commence à monter ne peut pas subsister dès que la chaleur et la sécheresse vient, parce qu'elle n'a pas de racine, ou la racine est très peu profonde, et tout disparaît. Il n'y a plus rien. C'est une âme perdue. Comme le premier cas est une âme perdue qui a reçu l'évangile, qui a entendu l'évangile, mais qui a permis que le diable l'enlève subitement. Et le deuxième cas, oui, on a reçu et on se croit peut-être sauvé, mais on n'a pas donné tout son être au Seigneur. Et le résultat, c'est que finalement, tout disparaît. Et puis, le troisième cas, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il n'y a pas de fruit. Tout disparaît finalement. Alors voilà un gars avec un bon cœur, une terre profonde, il reçoit la parole et elle commence à mettre de bonnes racines, mais cet homme, cette fille ne veut pas que Dieu enlève un tas de fréquentation, d'amitié, de liaison, de péché, d'idées, de choses. On ne veut pas tout donner au Seigneur. On veut encore garder certains péchés dans sa vie. Et ces péchés continuent à se développer et finalement étouffent la parole. Et de nouveau, tout est perdu. Il n'y a plus rien. C'est tragique. On voit quelquefois des personnes, des braves personnalités, des types, des filles formidables, sympathiques. Et puis, oh oui, oui, je reçois, qu'est-ce que Jésus merveilleux, etc. Mais il y a des choses qui ne disparaissent pas dans ces vies. Il y a des choses que ces gens ne veulent pas lâcher. Et finalement, tout disparaît. Une troisième fausse conversion. Et maintenant, le quatrième cas, verset 20, et remarquez au verset 22, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Généralement, c'est parce qu'on se préoccupe des choses matérielles surtout. On ne veut pas penser au ciel. Les choses de cette vie semblent plus importantes. Et la séduction des richesses. On ne veut pas se priver de quoi que ce soit. Et on sait qu'en suivant Jésus-Christ, on peut, à la rigueur, être privé de tout. On n'accepte pas la croix. On veut bien accepter Jésus, oui, avec le bon vin qu'il donne, mais on ne veut pas accepter sa croix. On veut le suivre, oui, jusqu'aux noces de Cana, mais on ne veut pas le suivre jusqu'au calvaire. Alors, plus rien. Mais le quatrième cas, c'est une conversion, une nouvelle naissance authentique. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, comme les autres, et qui la comprend. Il porte du fruit. C'est ça la différence. Il y a eu un commencement de vie dans les autres cas, mais il n'y a pas eu de fruit. Il n'y a pas eu de grain. Et un grain, on donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors vous voyez qu'il y a des degrés de fruit. Le fruit de l'esprit, évidemment, c'est Paul qui nous dit dans l'Épître aux Galates, c'est l'amour. La véritable preuve du salut, si on veut une preuve, et on n'a pas besoin de cette preuve pour nous-mêmes, parce qu'on est, on sait qu'on est sauvé, non pas parce qu'on aime, non, on sait qu'on est sauvé parce que Christ a versé son sang pour nous, c'est tout. On n'est pas sauvé parce que, on est sauvé simplement parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et on le sait, et on compte dessus. Mais pour les autres, il faut voir cet amour. Moi, je sais que tu es sauvé si je vois vraiment cet amour, si je vois que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton prochain comme toi-même, et tu es prêt à faire n'importe quoi pour amener des âmes au Seigneur, et tu aimes ton frère comme Christ a aimé. Ça, c'est pour moi la preuve que tu es sauvé. Mais il y en a qui portent beaucoup de fruits, il y en a qui portent moins. Il y a un grain qui porte une épie ou plusieurs épis avec une centaine de grains, il y en a un autre qui ne porte que 60, il y en a un autre 30. Mais il y a quand même du fruit. Il y a des chrétiens qui portent beaucoup de fruits, il y en a qui portent moins. Mais il y a toujours du fruit. Il y a toujours un résultat concret dans la vie du véritable chrétien. La Bible nous parle de chrétiens spirituels et de chrétiens charnels. Regardez, je reviens à Matthieu 13 si on a le temps, mais regardez 1 Corinthiens chapitre 3. Paul écrivait à une église qui, dans l'ensemble, était assez peu intéressante, où il y avait pas mal de péchés et beaucoup d'ignorance et de confusion. Dans ce chapitre 3 de 1 Corinthiens, au verset 1, Paul, après avoir parlé de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie, il dit au verset 3, « Pour moi, frère, chapitre 3, verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, donc des hommes qui sont vraiment animés par l'Esprit de Dieu, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire qui sont animés plutôt par l'ancienne nature, comme à des enfants en Christ, les bébés. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, au lieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alors, l'apôtre Paul reconnaît qu'il y a des chrétiens qui sont spirituels, il y en a qui sont charnels, mais ils sont quand même chrétiens. Il s'agit ici de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il a l'Esprit de Dieu en lui, mais si vous voulez, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui permettent que le Saint-Esprit fasse tout son boulot. On donne à Dieu tous les droits sur notre personne. Et puis, le résultat, c'est que l'Esprit de Dieu peut faire tout ce qu'il veut en nous et à travers nous. Mais il y a d'autres chrétiens qui, peut-être parce qu'on n'aura jamais appris ces choses, et on n'aura jamais appris la nécessité de lire toute la Bible pour savoir tout ce que Dieu veut, ou des chrétiens qui sont détournés peut-être par une femme non convertie ou par un ami qui bloque le chemin ou par des choses qu'on n'a pas vraiment abandonnées au Seigneur dès la nouvelle naissance ou des habitudes de toutes sortes. Alors ces chrétiens, oui, ils sont au Seigneur, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru en Jésus pour leur salut, ils ont accepté le sang de Christ pour eux-mêmes. Mais soit à la nouvelle naissance ou soit après, ils ont bloqué l'action du Saint-Esprit en ne pas tout donnant au Seigneur. Il y a une faille. C'est peut-être même une amitié qui est dangereuse, et au lieu de rompre avec ça, on est entraîné. Enfin, ça peut être 36 choses différentes, mais c'est le chrétien qui, finalement, au lieu d'avoir les yeux uniquement sur Christ, il essaie de regarder Christ et le monde à la fois, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, a dit que si on a l'œil en bon état, en grec c'est un l'œil singulier, ou plutôt l'œil simple, qui ne voit qu'un seul objectif, eh bien Jésus dit tout le corps est en lumière. Mais si on a un œil double, c'est-à-dire si on cherche à voir deux objectifs à la fois, finalement on ne voit rien, tout est confusion, n'est-ce pas? Et on est rempli de ténèbres. Alors, le chrétien spirituel, c'est celui qui ne regarde qu'un seul objectif, Christ. Alors que le chrétien charnel, c'est celui qui regarde du Christ. Lui, il veut bien, mais il regarde aussi un tas d'autres choses. Il a d'autres objectifs dans la vie, à part la volonté de Dieu. Et le résultat, c'est que l'Esprit de Dieu, tout en faisant un travail en lui, et tout en produisant de véritables résultats, quand même, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a du fruit, mais peu de fruit, ou relativement peu. Et naturellement, le chrétien charnel, il peut, du jour au lendemain, il peut, d'un instant à l'autre, se repentir de cela et confesser son péché au Seigneur, être délivré et être tout de suite spirituel. Tout chrétien peut être rempli du Saint-Esprit d'un moment à l'autre. Et naturellement, le chrétien spirituel, il peut aussi devenir charnel. Je connais beaucoup de cas, et j'ai vu ça dans ma propre vie. Oui, on marche bien avec Dieu, etc. Et puis imperceptiblement, petit à petit, il y a quelque chose qui arrive, qui bloque. Je vous raconterai l'une de mes expériences quand j'avais à peu près 26-27 ans, après avoir bien marché avec le Seigneur pendant 3 ou 4 ans, et après nous être converti depuis à peu près 8 ans, j'ai, sans m'en apercevoir, je commettis deux péchés. Et je n'y voyais pas d'inconvénient, j'étais pas vraiment conscient de péché. Le premier péché, c'était que, évidemment, j'ai étudié pour une licence ou une maîtrise, et je potassais énormément de littérature et d'autres choses, et j'étais tellement intéressé par la littérature, surtout la poésie lyrique de plusieurs langues. C'est ce qui m'a amené à apprendre un peu le persan et à puiser dans tout un tas de littérature. Et je ne me rendais pas compte, mais j'absorbais tout un tas de poisons. Et généralement, je voyais clair, je rejetais tout ce qui était faux, mais sans le savoir, je commençais à être imprégné et intoxiqué. Et la deuxième chose, c'est que grâce surtout à toute cette lecture, et je lisais ma Bible quand même, je lisais beaucoup la Bible, je cherchais Dieu vraiment de tout mon cœur à cette époque, mais cela a modifié un petit peu mon optique. Vous savez, un garçon de 26 ans qui n'est pas encore fiancé ni marié, et je ne l'étais pas, il commence à se faire des complexes. Et évidemment, depuis tout petit, je m'intéressais aux filles, d'accord, comme nous tous. Mais à ce moment-là, Généralement, Dieu m'a gardé de faire des bêtises jusqu'à ce moment-là, de bêtises graves. Généralement, si j'étais amoureux d'une fille inconvertie, elle ne m'aimait pas, alors j'étais classé. Dieu a arrangé les choses, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, j'étais vraiment... Oh, j'avais soif et faim de l'amour d'une fille. J'étais pas encore marié, j'avais pas encore trouvé celle qui est devenue ma femme. Et oui, j'avais 27 ans, je m'appelle. Une petite lycéenne, c'était à Lausanne, une petite lycéenne de 17 ans, elle est tombée follement amoureuse de moi. J'avais cultivé ma première barbe, j'en ai eu trois au cours de ma vie. Et je sais pas... Alors je suis sorti avec elle plusieurs fois, etc. C'était un petit flirt. Humainement parlant, c'était absolument innocent. Vraiment, je n'ai rien, absolument, on n'a absolument rien fait de mal, humainement parlant. Et juste peu de temps après ça, il a fallu que je rentre en Angleterre à travers une France sous le contrôle des Allemands. J'ai pu échapper belle plusieurs fois. Et en arrivant en Angleterre, j'étais tout de suite mobilisé. J'étais mis dans l'armée. Mais c'était quelques semaines seulement après ça, et juste avant d'être mobilisé, un après-midi, subitement, dans la rue, dans une certaine petite ville en Angleterre, Dieu a caché sa face. Il a complètement coupé sa communion avec moi. Et je ne comprenais absolument pas. Et ce moment-là, mes doutes étaient terribles. Je doutais presque de l'existence de Dieu, de tout, et surtout de mon salut. Et pendant 2 ans, pendant mes 2 premières années de guerre, mobilisation, en Angleterre, avec mes entraînements, avec ma vie de caserne, avec les bombardements, et ensuite en Égypte, avec Rommel devant nous qui nous enfonçait dans l'île, ensuite près de la mer Caspienne, avec les Allemands qui descendaient vers la frontière iranienne, ils avaient presque conquis la Russie à ce moment-là. Et puis lorsque je mourais de paludisme une fois sur une montagne en Iran, pendant toutes ces périodes, je ne voyais pas la face de Dieu. C'était horrible, c'était terrible. J'ai vécu une sorte d'enfer pendant ce temps. Au fond de moi-même, je savais quand même que c'était vrai. Je savais que j'étais un enfant de Dieu. Mais intellectuellement, j'étais dans la confusion la plus atroce. Et c'était pendant cette période que j'ai lu et relu, je ne sais pas combien de fois, ma petite Bible de poche. Et à un moment où j'étais presque mort de paludisme, où j'avais des hallucinations extraordinaire, d'une beauté, d'une horreur incroyable, des choses qui tellement vives, c'était des sortes de visions en couleur, mais de couleurs absolument éblouissantes. J'essayais de prier, et voilà ce que Dieu m'a dit. Est-ce que tu as jamais trouvé quelque chose ou quelqu'un de plus bon que Jésus? Et j'ai dit non. Et Dieu m'a dit, bien pourquoi est-ce que lui ne serait pas la vérité? En un clin d'œil, Dieu a remis le contact. J'ai reçu toute ma certitude à nouveau et ma communion avec Dieu, et je ne voudrais plus jamais perdre ma communion avec Dieu. J'avais déjà perdu 3 fois, et je ne veux plus jamais perdre ma communion avec Dieu. Alors vous voyez comment, même en étant très proche de Dieu, on peut préparer le chemin pour une chute. Heureusement que Dieu se sert de toutes ces choses. Dieu m'a appris des choses... Oh, incalculable à travers ces expériences douloureuses. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'amour de Dieu est tellement précieux et Dieu est tellement jaloux que s'il voit que nous flirtons un petit peu avec le monde, on blesse Dieu jusqu'au fond de son cœur. Et Dieu est tellement sensible que ben, quelquefois il coupe carrément. Il dit, bon, alors je te laisse faire. Et pour retrouver la face de Dieu, quelquefois, il faut payer très cher. La première fois que j'ai perdu la face de Dieu, après être converti, je crois, 2 ans, ça c'était quand j'étais à la faculté, où je me suis enorgueilli, entre autres. Je crois qu'il m'a fallu 3 ou 4 mois de misère spirituelle, d'horreur, de ténèbres, jusqu'à ce que Dieu me redonne sa communion. La deuxième fois, c'était encore à cause d'une jeune fille. Là encore, je n'ai rien fait de mal, humainement parlant. Mais Dieu s'est caché une deuxième fois. Et là, je crois que j'ai passé, ou je ne m'appelle plus, je crois que c'était 6 mois ou 1 an, je ne m'appelle plus maintenant. C'était horrible, c'était terrible. Et c'est ça dont Dieu s'est servi pour me pousser à vraiment chercher sa face de tout mon cœur. Et c'est après ça que Dieu a commencé à se révéler à moi et à m'ouvrir le ciel. Et même après ça, même après 3 ans et demi de marche avec Dieu, comme ça, encore j'ai perdu ma communion avec Dieu. Et encore à cause de péchés que je n'avais pas reconnus comme péchés. Donc je vous dis ces choses parce que, comme dit l'apôtre Paul, celui qui est debout, eh bien qu'il prenne garde, qu'il ne tombe pas. Nous avons besoin de marcher instant après instant, en sondant notre conscience, notre volonté, et en mettant notre foi en Christ, c'est une marche instant après instant. Paul dit qu'il faut marcher par l'Esprit. On ne peut pas se dire, bon, alors ça y est, j'ai fait le contact, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, bon, maintenant je suis bon, je suis dans le bain. C'est pas vrai. Si je suis dans le bain maintenant, si je suis en communion avec Dieu maintenant, un instant après, je peux chuter. Donc nous avons besoin de croire en Christ et de nous abandonner à lui sans cesse, tout le temps. Notre vie spirituelle commence par un acte de foi en Christ. Mais elle continue à être une série interminable d'actes de foi en Christ. Ce premier acte m'amène à adopter une attitude de foi en Christ, et cette attitude, Dieu nous la conserve jusque dans l'éternité. Seulement, nous pouvons quelquefois, malgré cette attitude, commettre des actes d'incrédulité ou de désobéissance. Et là, Dieu, quelquefois, tout en ayant beaucoup de compassion et de compréhension pour nous, quand même, il sort quelquefois le martinet, quelquefois il nous renvoie dans la pièce à côté, d'autres fois, peut-être qu'il nous prive de notre souper, il nous envoie... Enfin, il nous châtie d'une sorte de manière, et ça fait quelquefois très mal. Le papa qui tape très fort, eh bien, ça fait couler les larmes, et ça sort des cris, mais c'est bon, et c'est salutaire. Alors quelquefois, Dieu nous fait passer par des châtiments assez forts. Et la Bible dit que Dieu châtie le fils qu'il aime. Et c'est vrai, le parent qui ne châtie pas son enfant, qui ne corrige pas son enfant, il voue cet enfant à la délinquance ou à la misère. C'est un gars qui ne saura jamais se discipliner. Et quand vous aurez à élever vos enfants, rappelez-vous ça. Le petit secret pour l'éducation de l'enfant, c'est qu'il faut l'aimer, l'entourer d'amour, mais il faut aussi être sévère et exigeant. Il ne faut pas baisser le standard. Et il faut que oui soit oui et que non soit non. Si tu dis à ton gosse, bon, alors demain on va se promener et vous ne vous promenez pas, pour ce gosse, c'est une catastrophe psychologique et morale. Et si vous dites à ce gosse, bon, alors si tu redis ça, je vais sortir le martinet, eh bien, le gosse le redit, et tu dis, je t'ai pas dit que je vais sortir. Ah non, ça c'est absolument terrible. Il faut que le gosse apprenne depuis tout petit que oui c'est oui et non c'est non. Et les enfants ensuite sont sécurisés. Sans cela, ils grandissent sans savoir où ils en sont. Et naturellement, s'ils peuvent exploiter maman ou papa un peu, ben ils le font. C'est inné dans la nature humaine, ça. Et vous faites mal à vos enfants comme ça. Et surtout, je dis ceci, si les parents ne sont pas unis et ne prient pas ensemble pour les enfants, et s'ils ne s'appuient l'un l'autre devant les enfants, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ce sont les trois secrets, si vous voulez. Vous qui allez avoir des enfants. Alors Jésus raconte cette histoire de la parabole et il donne aux disciples la clé pour comprendre toutes les paraboles. Et il nous donne aussi l'explication de la deuxième parabole et aussi de la dernière, mais pas des autres. Et après ça, Jésus a raconté beaucoup d'autres paraboles. Et c'est à nous de déchiffrer le sens par nous-mêmes. Mais si nous commençons par cette première et la deuxième et la septième dont il nous donne la signification, on peut interpréter ces paroles correctement. Mais il est midi et je la ferme. Eh bien, nous pouvons nous mettre devant le Seigneur pendant quelques instants, de lui demander de sonder notre cœur et surtout d'examiner notre déclaration d'amour pour voir si réellement notre amour est sérieux et si cet amour ne peut pas peut-être être endommagé par un flirt avec autre chose que j'ai choisi.
Thank you.
était autrefois un symbole païen et représentait le culte de Satan lui-même. Et c'est curieux que même encore ici en France, sur les pharmacies, il y a une croix avec le serpent dedans. Et ce symbolisme va jusqu'à l'Antiquité la plus lointaine. Après le déluge, les hommes avaient peur de se moquer du créateur ouvertement comme ils faisaient avant le déluge. Et quelque temps après le déluge, un homme qui s'appelait Nimrod a fondé la ville de Babel, qui après était appelée par les Grecs Babylone, c'est la même ville, et qui est devenue le centre, la capitale spirituelle de Satan. Et Satan espérait pouvoir contrôler le monde entier à partir de Babylone. Et à l'époque de Nimrod, et le mot Nimrod, on trouve une allusion à Nimrod dans Genèse chapitre 10, le mot en hébreu signifie rebelle. Ça vient du verbe malade en hébreu qui signifie se révolter. Et Nimrod était essentiellement celui qui a mené une révolte de la part des nations contre Dieu, contre le Dieu qui avait envoyé le déluge, le Dieu de Noé, le Dieu de Sem, et le Dieu qui avait chassé l'homme du jardin d'Éden. Et à partir de cette époque, on a commencé à considérer le serpent qui est apparu dans le jardin d'Éden, à Ève et à Adam, comme étant le libérateur de l'humanité, qui libère l'humanité.